Que Jésus le fasse aussi pour nos enfants qui seront baptisés dimanche. Que cette force qu'il a eue après le baptême, qu'il soit ainsi pour nos enfants les dimanches. Tu connais, Seigneur, toutes les ruses du diable. Rends-les victorieux. Le Seigneur qui puisse témoigner chaque jour, chaque minute, comment ils sont des enfants. Le Seigneur qu'il puisse être la lumière dans ce monde. Seigneur, Jésus a pu terminer sa mission après le baptême.
Seigneur, merci parce que tu nous as écoutés. Merci parce que tu as écouté nos prières, Seigneur. Nous continuons à te glorifier parce que tu vas continuer à aider nos jeunes frères, nos jeunes sœurs qui seront baptisés ce dimanche. Nous savons qu'il y a beaucoup de tentations après le baptême. Mais Seigneur, avec toi, toi qui es la force, toi qui règnes à jamais, nous savons que tu vas les accompagner. Aide-les, Seigneur, à te contempler toujours et à te suivre à jamais. Bénis ton Église. Bénis ton nom ici. Et tout ce que nous t'avons amené comme requête, Seigneur, que tout soit fait dans ta volonté. Nous nous soumettons à ta volonté.
Merci. Maintenant, nous avons dit que heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Il trouve l'homme heureux, il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et il la médite jour et nuit. Maintenant, nous voulons méditer la parole de Dieu avec notre ancien de l'Église. Bienvenue.
Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te remercions et bénissons ton nom parce que tu es Dieu au milieu de nous. Encore ce jour, tu règnes. Nous te célébrons parce que tu es l'auteur de la vie, tu es le donateur de la vie, tu es le protecteur de la vie. Si nous sommes là, c'est parce que tu l'as voulu ainsi. Nous nous recommandons à ta grâce. Étant le créateur, le donateur de la vie, même là où il y a la mort, tu sais, s'aimer la vie. C'est pourquoi, toi qui connais nos vies, nous avons besoin que tu nous fasses revivre en toi encore ce jour, par la puissance de ton Saint-Esprit à travers ta parole. Laisse que tu sois le seul qui va régner, qui va être glorifié et qui va être vu. Et que nous tous ici, nous diminuions pour que toi tu croisses. Tu connais bien les besoins de chacun de nous. Viens nous rencontrer parce que nous sommes venus pour toi. Sois élevé et sois béni. Nous prions dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes très reconnaissants au Seigneur pour le privilège qu'il nous donne d'être dans sa présence cet après-midi. Et particulièrement, merci à Dieu qui, dans sa grâce, nous associe à son œuvre encore à ce jour, afin d'être utilisé comme son instrument pour communiquer la vie, la parole, sa parole cet après-midi. Dites à votre voisin, soyez ici pour vous-même. Oui, soyez ici pour vous-même. Parce que des fois, si nous regardons aux autres, nous pouvons être démotivés, découragés. Mais si nous savons que nous sommes dans la présence de Dieu pour nous-mêmes, alors nous saurons qu'il y a des choses que nous sommes venus chercher dans la présence du Seigneur. Amen. Ma prière, c'est que la joie de la présence du Seigneur soit notre partage. Et qu'au sortir de ces lieux, nous soyons à mesure de dire, j'ai vu le Seigneur me toucher. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. En fait, comme cela nous était annoncé hier, nous serons dans le chapitre 3 de Daniel. Nous aurions dû lire tous les chapitres, c'est 30 versets, mais compte tenu du temps, nous allons cibler certains versets et dans la méditation, nous allons essayer de parler de tous les chapitres. Daniel chapitre 3, le verset 1er, je vais lire jusqu'à 10 avant de sauter vers d'autres versets. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers et les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevé le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, le trésorier, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, « Voici ce que vous ordonne peuple, nation, homme de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuque, de la psalterion et de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes les langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent, « Ô roi Nebuchadnezzar, ô roi, vis éternellement, tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare et de la sambuque, du psalterion et de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas, serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as rendu l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi. Ô roi, ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. » Verset 15. « Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté en l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ?» 17. « Voici notre Dieu que nous servons peu. » Nous délivrer de la fournaise ardente et Il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Verset 27. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leur caleçon n'était point endommagé et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abdenego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance à lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. » Amen. Comme annoncé hier, frères et sœurs, nous voulons parler des sujets intitulés « Dieu vous a dévancé dans la fournaise ardente ». Sans oublier que nous sommes dans ce grand thème « Persécuté, mais non abandonné ». Alors cette histoire que nous venons de lire, nous la connaissons tous bien parce qu'elle nous est très familière. Alors faisant suite aux enseignements de la semaine, et particulièrement dans cette perspective de ce que nous devons faire face à l'adversité aujourd'hui, nous voulons traiter de ce sujet qui va nous amener à comprendre que Dieu nous a dévancés dans la fournaise ardente. Ça insinue déjà l'idée que la fournaise ardente, elle est là. Nous serons jetés dans la fournaise ardente. Mais il y a une bonne nouvelle dans ça, c'est que Dieu nous dévancera dans la fournaise ardente. Quand vous lisez Osée chapitre 2, le verset 16, le Seigneur dit, « C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. » Bien-aimé, lorsque le Seigneur veut parler à ses bien-aimés, il a besoin de tant d'intimité avec eux. Et souvent, il utilise des moments d'adversité, des moments de souffrance pour les attirer dans le désert, afin qu'ils soient concentrés uniquement sur Dieu, afin que Dieu parle cœur à cœur avec eux. C'est pourquoi pendant les moments d'adversité ou pendant les moments de souffrance, nous devons avoir plutôt une oreille attentive que d'avoir une bouche qui se plaint. Qu'est-ce que nous devons retenir de ce que nous devons faire dans la perspective de ce que le pasteur a commencé hier à nous montrer comment nous devrions nous attacher à la parole de Dieu pour faire face à l'adversité. Aujourd'hui, nous voulons parler de trois autres points. Et premièrement, nous voulons dire que nous devons être à Babylone sans avoir Babylone à nous. Soyez à Babylone sans avoir Babylone à toi-même, parce que tout est question d'adoration. Le texte que nous avons lu nous montre le roi Nebuchadnezzar qui était déjà monté en puissance parce que c'était un empereur qui régnait sur beaucoup de pays. Et l'orgueil est monté en lui jusqu'à ce qu'il a érigé une statue d'or pour commencer à se faire adorer comme d'autres dieux babyloniens. C'est là la raison pour laquelle il invite beaucoup de gens, tous ceux qui sont concernés par ce gouvernement, à venir à la dédicace de cette statue d'or qu'il a établie. Et l'ordre était clair. Lorsque vous allez entendre les sons des instruments de musique, vous tous, sans exception, prosternez-vous et adorez la statue. Autrement, vous serez jetés sans appel dans la fournaise ardente. Au fait, quand vous lisez bien ces deux verbes, vous trouvez que c'est séparé, bien que ça peut paraître lié sous quelque forme. Il a dit, lorsque vous allez écouter les sons des instruments de musique, prosternez-vous. Donc, tombez la face contre la terre devant la statue. Des deux, adorez la statue. Cela nous montre que c'est possible de se prosterner sans adorer. Parce que l'adoration fait appel à l'état des cœurs. Ça nous enlève les apparences. Ça nous enlève ce que les gens peuvent voir, mais ça nous amène, nous, en tant qu'être entier, à nous consacrer à ce que nous sommes en train de faire. Et donc, bien-aimés, nous devons comprendre que les rois ici cherchaient qu'ils soient vénérés comme est Dieu. Alors, après avoir donné l'ordre, on a sonné aux instruments de musique et la plupart des gens se sont prosternés. Mais il y a une différence. Trois jeunes qui se sont démarqués. Et les Chaldéens, ce sont des astrologues ou des magiciens. Ils ont porté plainte. Ces gens, ils avaient un problème parce qu'ils souffraient dans leur cœur du fait que eux se sont prosternés à contre-cœur, mais ils réalisent que bon, il y a des gens qui ne se sont pas prosternés. Ils disent, mais comment nous nous sommes prosternés et ceux-ci ne veulent pas le faire comme nous? Alors, étant donné qu'ils s'étaient prosternés à contre-cœur, ils se sont soulevés. Ils vont vers le roi pour lui dire, hey, « Eh, cher roi, voici ce qui s'est passé. Il y a des gens qui ont désobéi à l'ordre que tu as donné. » Alors, quand vous lisez le texte verset après verset de ce chapitre 3, vous réalisez que le problème, ce n'est pas l'adoration de la statue d'or ici. C'est comme s'ils cherchaient déjà l'occasion d'amener ces gens dans un tribunal où ils sont jugés par les rois. Ils ont saisi juste la célébration de la dédicace de la statue d'or comme un alibi pour accuser ces trois juifs, qui du reste, c'était visible qu'ils ne s'étaient pas soumis au dieu babylonien. Ce qui veut dire, vous allez voir même dans le chapitre 2, déjà dans le chapitre 1er, ils décident de vivre une vie différente. Ils décident qu'on les soumette à un régime particulier. Alors, ces gens, ils étaient à Babylone sans avoir Babylone en eux. Et donc, maintenant ici, les astrologues trouvent l'occasion de les accuser. Mais je me suis posé la question, pourquoi ils veulent les accuser? Et en les accusant, ils vont gagner quoi dans ça? Parce que c'était simple, ils pouvaient seulement se taire. Ils s'étaient prosternés, s'ils le faisaient de cœur, ce serait tout. Que ceux qui ne se prosternent pas ou non, bon, ça les regarde à quoi? Mais en fait, quand vous lisez les textes, vous remarquez, premièrement, ils se sont attaqués à leur position. Ils ont dit au roi, il y a des gens que tu as élevés à position d'autorité ici. Mais ces mêmes gens-là, qui ne sont même pas d'ici, ils ne se soumettent pas à ton autorité. Donc, ils attirent l'attention du roi que ceux-ci sont en train de ne pas se soumettre à son autorité, bien qu'ils soient à son service. Ils vont aller jusqu'à confronter le roi à sa propre décision. N'est-ce pas, roi, vis à jamais, tu as dit. Mais dans ce que tu as dit et dans ce que tu as donné comme sentence, il y a ceux qui ne sont pas en train de se soumettre. Une manière d'interpeller le roi pour dire, ok, ici tu n'as pas de choix que d'exécuter. Et donc ici, bien-aimé, il est clair que la cible de cette attaque, ce n'est pas le fait que ces gens ne se sont pas prosternés, mais c'est un problème d'adoration du vrai Dieu. Et ici, nous devons comprendre que le diable cherchera toujours de bonnes occasions pour nous accuser, pour nous attaquer. Nous devons faire attention, bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, que notre souffrance ne soit pas un moment où nous serons défiés à abandonner notre relation avec Dieu. Parce que tout ce que le diable veut faire, c'est d'essayer de nous monter contre Dieu. Nous montrer une image telle que, est-ce que si tu étais avec Dieu, ceci t'arriverait. Et donc, ici, il est question de guerre d'adoration. On adore qui? Qui doit être adoré? Et les attaques que le diable veut amener et orienter vers vous, ça va viser votre relation avec Dieu, votre vie d'adoration de Dieu. Et donc, le roi ayant été saisi, il pose une question à ces trois jeunes gens qu'il a fait venir dans sa présence. Et il leur dit ceci, « Est-ce des propos délibérés que vous n'adorez pas mes dieux ?» Il veut se rassurer. Est-ce que ces gens connaissent les vraies motivations qui les amènent à ne pas m'adorer? Ou bien peut-être, ils l'ont fait par inadvertance. Ça veut dire qu'ici, les rois ne veulent pas punir les gens qui ont montré un mauvais comportement par ignorance. Alors, malheureusement, le roi va poser une question qui n'a pas trouvé de réponse claire. Et au finish, quand il a donné l'ordre, il l'a fait avec fureur. Parce que finalement, la réponse qu'il reçoit, ce n'est pas à une telle réponse qu'il pouvait s'attendre. Retenons bien aimé que ces gens sont devant un empereur, quelqu'un qui a déjà conquis des royaumes et des royaumes. Il est déjà élevé en puissance et ceux-ci sont des esclaves parce qu'ils sont déportés de leur pays vers Babylone. Ici, ce sont des esclaves qui s'opposent à celui qui les a enlevés chez eux par force jusque là où ils sont. Alors, les rois dans sa fureur, ils tournent le dos contre ces jeunes. Parce que finalement, les jeunes lui ont dit quoi? Sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer et il nous délivrera. Le roi, avant que ces jeunes disent ceci, il les avait déjà dit, bon, si vous ne voulez pas adorer, d'ailleurs, qui d'autre peut vous arracher de ma main? Qui peut vous sauver de ma main? Personne. Maintenant, la réponse qu'il reçoit en retour, c'est qu'ils lui disent, ok, nous servons notre Dieu, nous savons qu'il peut, une probabilité, il peut nous délivrer, et il va avec une confirmation, il nous délivrera. Ici, nous voyons qu'il y a comme une guerre de paroles, une guerre de déclarations. Ces trois jeunes s'érigent contre le roi, l'empereur. Pourquoi? Ces jeunes ici, quand vous écoutez ce qu'ils disent, ils ne sont pas en train d'essayer de se vanter de ce qu'ils ne sont pas. Ils ne sont pas en train d'essayer de se vanter d'appartenir à quelqu'un qui ne les connaît pas. Parce que c'est facile de se faire passer pour enfant de tel, alors que vous ne l'êtes pas. Et donc, ces bien-aimés, ils connaissaient leur Dieu. Et ce qui est important avec eux, dans cette connaissance-là, leur foi a vu plus loin que les circonstances présentes. Et comme leur foi a vu plus loin, alors ils sont allés plus loin. Il peut, mais nous croyons, il nous délivrera. Bien-aimés, retenons que vous n'irez jamais plus loin que votre foi. Vous n'irez jamais plus loin que votre foi. C'est pourquoi la Bible nous exhorte à avoir la foi. Et la manière dont ces jeunes ont répondu, ça montre une soumission à l'autorité de la parole de Dieu. Ils ont dit, le Seigneur que nous servons peut et il nous délivrera. La manière dont ils répondent, ils montrent qu'ils ne veulent pas imposer à Dieu une décision de les sauver de leur situation. Ils savent que Dieu n'est pas obligé d'intervenir dans leur vie. Dans cette situation présente-là, ils sont conscients que Dieu n'est pas obligé d'intervenir pour prouver aux Chaldéens et aux gens de Babylone qu'il est le Dieu. Ils n'étaient pas obligés. Alors, bien que ses amis connaissent leur Dieu, bien qu'ils savent qu'ils sont à son service, ils étaient tout de même soumis et ils étaient tout de même prêts à continuer à servir Dieu, même si ils n'intervenaient pas dans leur situation comme elle le voudrait. Leur accorder la délivrance dont ils avaient besoin, parce que la fournaise, ce n'était pas n'importe quoi. Alors, bien-aimés, la connaissance de Dieu va toujours avec la soumission à la souveraineté de Dieu. Quand nous disons que nous connaissons notre Dieu, et ça, nous avons besoin de ça, parce que nous sommes persécutés, nous devons avoir la connaissance de Dieu. Et lorsque nous disons, nous avons la connaissance de Dieu, cela doit toujours aller avec la soumission à la souveraineté de Dieu. Parce qu'il fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, avec qui il veut et comme il veut. Nous devons, au fur et à mesure que nous grandissons dans la connaissance de Dieu, nous devons de plus en plus devenir humbles et de plus en plus arriver à nous soumettre à Dieu. Notre premier devoir en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'adorer Dieu avant toute chose. Et ces trois jeunes savaient cela. C'est pourquoi au prix de leur vie, ils n'ont pas accepté d'adorer un autre Dieu. Et là, nous pouvons lire cela clairement dans leur réponse parce que la réponse qu'ils ont donnée au roi montre leur vraie motivation qui sert de base pour leur décision de ne pas céder à la souffrance et à la pression à laquelle ils sont soumis pour adorer d'autres dieux. Ils étaient soumis à une souffrance psychologique parce que le roi leur a dit d'avance, qui vous délivrera de mes mains? Donc c'était une manière de les démoraliser d'avance. Au-dessus de cela, la fournaise est en train d'être réchauffée, cette fois plus que d'habitude. Alors au-dessus de cette pression, étant persécuté, quelles que soient les insinuations jalouses de ces Babyloniens, de ces Chaldéens, quelles que soient les horribles menaces de l'empereur, ces quelques jeunes aussi continuaient à s'attacher à la parole de Dieu, continuaient à s'attacher à leur foi personnelle, à des convictions personnelles, sans jamais se laisser effrayer. Combien ne sommes-nous pas intimidés par les événements qui nous arrivent dans la vie? Mais ceux-ci, quelle que soit la pression psychologique et physique à laquelle ils ont été soumis, ils sont restés fermes parce qu'ils avaient la connaissance de Dieu qu'ils servent. Bien-aimés, ces gens ont témoigné avec assurance leur loyauté envers leur Dieu. Ils sont restés loyaux à Dieu malgré la pression et la souffrance qu'ils pouvaient expérimenter. Ils avaient une foi inconditionnelle parce qu'ils étaient prêts à être sauvés ou non, mais restant toujours attachés à Dieu. Ils avaient une confiance totale. Ils avaient une loyauté envers Dieu, comme nous leur avons dit, comme nous l'avons dit, et ceci leur a permis de rester fermes malgré la pression. Frères et sœurs, dans ce monde, comme nous l'avons appris toute la semaine, nous sommes soumis à de toutes sortes de souffrances. Et la Bible dit, les jours de l'homme sur la terre, elles sont trop peu nombreux, mais remplies de quoi? De souffrances. Alors des fois, à cause des souffrances, nous nous comportons mal devant Dieu. Et c'est là, en utilisant toute forme de paroles, de mauvaises paroles, que nous pouvons lancer contre Dieu. Et d'autre part, si dans notre souffrance, nous arrivons à chercher Dieu, il suffit que la réponse à laquelle nous nous attendions essaie de tarder un tout petit peu. Nous allons de l'autre côté, nous prenons nos propres solutions. Et ce n'est qu'après avoir pris des solutions qui ne sont pas adéquates, et par grâce de Dieu, lors de son intervention dans notre vie, maintenant quand nous comparons ce que nous aurions pris comme option et ce que le Seigneur fait, nous avons des fois honte de Dieu. Alors frères et sœurs, dans les souffrances que nous traversons, apprenons une chose, nous attendre patiemment à Dieu. Nous attendre patiemment à Dieu. Nous savons que c'est dire oui. Nous avons un Dieu responsable, un Dieu qui est au contrôle, qui maîtrise tout. Et qui, heureusement, n'est jamais dépassé par les événements, ni moins ne sera jamais surpris par ce qui nous arrive. Alors, il est le Père responsable. Nous pouvons placer notre confiance à lui. Nous pouvons compter sur lui et la victoire sera certaine. Retenons que nous devons être à Babylone sans avoir Babylone en nous. Oui, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, frères et sœurs. C'est pourquoi n'ayons pas peur. Attachons-nous à Dieu parce qu'il est notre vie. Deuxième chose que nous devons connaître, nous serons jetés dans la fournaise au vu de Dieu. Et ce sera l'heure de la vérité. Jetés dans la fournaise au vu de Dieu. Frères et sœurs, il y a des moments où nous sommes dans des circonstances, nous sommes dans des difficultés et nous avons l'impression que Dieu nous a abandonnés. Il n'est pas avec nous. Mais nous devons retenir que des moments difficiles sont des moments révélateurs de notre vraie nature. Qui sommes-nous réellement? Ce sont des moments révélateurs de notre caractère, de notre vrai moi. Quand tout va bien, ah oui, nous pouvons être confondus. Mais il suffit que ça va mal. C'est là que nous allons commencer à nous différencier. Alors bien-aimés, des fois, le Seigneur regarde comme impuissamment pendant que nous traversons des moments durs. Mais ce n'est pas pour dire qu'il ne va pas intervenir. Alors nous devons prendre conscience que lorsque nous passons par des moments difficiles, il y a une attitude conséquente à prendre. Dans la suite du texte que nous avons lu, les vigoureux soldats, lorsqu'on veut jeter ses gardes dans la fournaise ardente, on a choisi les costauds parmi les soldats de Babylone. Et on les a demandé de lier les trois jeunes et de les jeter dans la fournaise. Mais non pas n'importe quelle fournaise, mais une fournaise de chauffer cette fois de plus. Et à ce niveau, pendant que ces jeunes viennent de défendre le nom de Dieu, pendant qu'ils viennent de défendre leur appartenance à Dieu, en tant qu'humain, on peut dire, « Ah, bon, Dieu a échoué. Comment on peut jeter cette fois-ci ces gens, ces fidèles qui viennent de prouver devant tout le monde qu'ils appartiennent, comment il peut permettre qu'on les jette dans la fournaise ?» Oui, nous pouvons prétendre que, « Ah, à ce niveau, il a échoué. » Nous pouvons prétendre que c'est fini. Mais je dois nous dire, bien aimé, que Dieu prend toujours le temps. Parce qu'il prendra toujours le temps lorsqu'il veut construire, lorsqu'il veut développer notre fort intérieur. Lorsqu'il veut construire notre être intérieur, il prendra toujours le temps. Oui, il sait de quoi nous avons besoin. Il sait qu'est-ce qu'il veut faire dans notre vie. Et dans sa souveraineté, il peut permettre que nous passions par tel ou tel autre événement parce qu'il sait exactement, il veut nous amener à quel niveau. Et ici, dans le sens de construire notre être intérieur, il nous fait passer par des circonstances difficiles, des souffrances, il permet que nous passions par là parce qu'il y a des choses dont vous ne saurez parler qu'après les avoir vécues. Et c'est ici où par moment les prédicateurs sont des matériels didactiques, des messages que Dieu va leur demander de communiquer. Il commence par toi. Il y a beaucoup de prophètes qui sont passés par des situations comme ça. Le Seigneur veut corriger son peuple. Il utilise son serviteur comme le matériel didactique. Parce qu'il veut les amener à une dimension où leur message porte la vie qu'ils ont vécue dans ces circonstances-là. Et c'est une raison de plus pour dire que ce n'est pas facile d'être prédicateur. Ce n'est pas facile d'être enseignant de la parole de Dieu. Ce n'est pas facile. Et de l'autre côté, pour cette même raison, il permet que, en tant que ses enfants, nous puissions passer par des moments difficiles. Parce que le Seigneur ne veut pas avoir des enfants gâtés. Il veut avoir des personnes construites en lui qui vont rester fidèles à lui malgré les difficultés. Et ce qui est intéressant avec Dieu, c'est qu'il n'y a pas de chemin raccourci. Vous devez passer par le processus. Et souvent, quand nous sommes dans ce processus de transformation, ça nous fait mal. Et c'est là que beaucoup d'entre nous nous fuyons. Les gens ont toujours la tendance de dire « Via Mungu, via Kawiak. » Parce que ça fait mal d'attendre, ça fait mal. Vous êtes dans les besoins et le Seigneur dit « Attendez. » Ces jeunes gens, on les jette dans la fournaise. Et lorsqu'ils viennent les jeter dans la fournaise, remarquez ce qui se passe pendant ce moment-là. Ceux qui ont été alloués, commissionnés pour les jeter dans la fournaise, ils ont été les premiers à être pris par le feu parce que c'était tellement chauffé. La Bible, quand vous la lisez, elle a donné les détails sur les caleçons, sur les cheveux, sur les habits que ces jeunes gens portaient avant qu'on les jette dans la fournaise. Mais on va remarquer une chose. Lorsqu'ils sont jetés dans la fournaise, le feu prend ceux qui les ont jetés, mais eux sont tombés intacts dans le feu. Parce que le feu dévorant les avait déjà dévancés dans le feu allumé par les hommes et il a consumé ce feu. Ils sont restés intacts dans le feu parce que le feu dévorant les avait déjà dévancés là-bas. La parole de Dieu dans Hébreux 12, 29 dit que l'Éternel, il est aussi un feu dévorant. Étant un feu dévorant, il est allé à leur rescousse. C'est pourquoi il a permis qu'on les jette dans le feu. C'est l'heure de la vérité, bien-aimés. Pendant qu'on les jetait, tout le monde savait que c'est fini pour eux. Parce qu'ils ont vu comment les gens qui les ont jetés ont été consumés par les feux. Mais maintenant, ils sont surpris. Eh! Quand vous touchez à un oin de Dieu, Dieu ne vous laisse jamais sans trace. Il va vous toucher. Le roi qui a ordonné qu'on les jette, il manque de sommeil. Il est indisposé, il n'est pas à l'aise. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu voulais être adoré, non? Pourquoi tu n'es pas à l'aise? Le Seigneur l'a mis mal à l'aise. Pendant qu'il est mal à l'aise, il va quand même avoir la curiosité d'aller voir. Qu'est-ce qu'il y a? Arrivé devant la fournaise, il retrouve 4 personnes dans la fournaise. Et j'aime ce qu'il a déclaré lui-même de sa bouche au verset 27. Je vais juste l'extrapoler. Le feu n'avait aucun pouvoir sur leur corps. Le feu n'avait aucun pouvoir sur leurs cheveux qui n'étaient pas brûlés. Leur caleçon n'était point endommagé. Et même l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Essayez de vous imaginer. La fumée quand même s'en sent, n'est-ce pas? Mais vous êtes dans un feu et vous y sortez sans odeur même de fumée. Le Seigneur avait dit, Esaïe 43, « Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu. » Et dans le verset suivant, verset 4, il montre comment je donne en échange à ta place des hommes. Ces hommes, ces soldats, ils ont été donnés en échange de ces serviteurs qui étaient fidèles à Dieu. Ils sont restés fidèles à Dieu et le Seigneur a pris leur défense. Bien-aimé, tu es dans un feu, oui. Peut-être tu es dans une situation, tu sens que ça te brûle. Dieu l'a permis, mais sois rassuré d'une chose. Si tu es déjà devenu enfant de Dieu, ce feu-là n'a aucun pouvoir sur toi dans tous les moindres détails de ta vie. Parce que Dieu, il te dévancera toujours là où il t'enverra. Et Dieu ne sera visible dans cet endroit qu'à la minute où tu y seras arrivé. La fournaise n'avait pas de personne. Mais quand on a jeté ces 3 hommes dedans, la 4e personne qui les avait déjà dévancés dedans a été manifeste. C'est elle qui l'a recueilli là-bas. Le Seigneur te recueillera partout où il va t'envoyer. C'est pourquoi, bien-aimé, quel que soit le chemin par lequel tu passes, tu es dans des circonstances difficiles, accroche-toi au Seigneur. Oui, il est avec toi. Il ne t'abandonne pas. Il l'a promis. Il sera avec toi si tu es déjà devenu son enfant. Il te recueillera, il te recueillera, il te recueille et il te recueillera. Le Seigneur, il est le seul qui peut te sauver de la fournaise ardente des difficultés de la vie. À Goma, qui savait qu'on pouvait encore vivre aujourd'hui? Toutes les routes fermées. On ne sait plus comment approvisionner la ville. Mais le Seigneur, il est en train de nous recueillir dans ses mains. Nous sommes en train de vivre. Nous ne sommes pas encore morts parce qu'il est là, en train de veiller sur nous. Il a nourri les enfants d'Israël dans le désert pendant qu'ils ne cultivaient pas, pendant qu'ils ne semaient pas. Et nous, à Goma, nous pouvons dire qu'il est Ebenezer. Eh oui, il l'est. Et s'il l'est, il le sera encore. Nous avons seulement besoin d'avoir confiance. Oui, la fournaise est inévitable parce que nous sommes dans un monde qui ne nous appartient pas. Mais le Seigneur, il est celui qui va nous protéger, qui nous a déjà dévancés, même avant que nous y arrivions. Oui, quand il sait qu'il nous a déjà dévancés, il permettra qu'on nous y jette. C'est pourquoi, n'ayons pas peur. Si nous sommes enfants de Dieu, notre vie est dans ses mains. Éphésiens dit que nous sommes cachés à Dieu. C'est là que nous sommes cachés. Et si nous sommes cachés à Dieu, qui peut nous détruire? Qui? Alors, le Seigneur, quand il veut se glorifier dans ta vie, il te fera passer par le processus qu'il a choisi pour que son nom soit glorifié. J'ai été attiré par la signification des noms de ses bien-aimés parce que j'ai réalisé qu'ils s'étaient attachés à l'identité, leur vraie identité. Parce qu'avant qu'ils arrivent à Babylone, ils avaient des noms hébreux. Mais arrivés à Babylone, on leur a donné des noms babyloniens. Les noms de Shadrach, c'est un nom babylonien qui signifie « sous l'autorité de Akou ». Akou, c'est un dieu babylonien, un dieu lune qui était adoré à Babylone. Alors que son vrai nom, c'est Hanania, qui signifie « le Seigneur a fait grâce ». C'est lui à qui le Seigneur a fait grâce. On va lui dire que toi, tu es sous l'autorité de Abdenego, ça signifie « serviteur de Nego ». Nego, c'est aussi un autre dieu babylonien qui était un dieu qui symbolisait l'apprentissage et l'écriture. Mais son vrai nom hébreu, c'est Misaël. Et ça signifie qui est égal à Dieu. Mais Meshach, ça signifie qui est sous l'autorité, qui est comme Akou. Tandis que son vrai nom, c'est Azaria, qui signifie le Seigneur a aidé. Alors, on a essayé de changer leur identité pour leur faire passer pour des Babyloniens, afin de les amener à se voir Babyloniens à leurs propres yeux, alors qu'ils ne le sont pas. Le roi avait des objectifs sûrs et il voulait effacer leur Dieu dans leur tête. Mais ils sont restés attachés à leur vraie identité. En fait, aujourd'hui, tout ce que le monde est en train d'essayer de nous proposer, c'est d'essayer d'oublier ce que nous sommes à Dieu et de changer nos valeurs pour embraser ces valeurs. Vous avez besoin de financement? Faites la promotion de l'homosexualité. Faites la promotion des. Le monde s'impose à nous. Le monde veut changer notre identité. Mais quand vous voyez l'histoire de ces jeunes, le Seigneur a agi dans leur vie. Il s'est révélé dans cette délivrance partant de la signification de leur nom. Parce que leur nom était très significatif aux yeux de Dieu. Bien-aimés, Dieu nous a créés saints. Mais le péché nous a collé un autre nom, mort. Et ce n'est qu'en se confiant en Jésus-Christ, dans l'œuvre que Christ a opérée sur la croix, que nous pouvons retrouver notre vraie identité, enfant de Dieu. Ne nous attachons pas à ce que le péché nous a collé. Il est temps de se décoller de ça. Il est temps de le refuser et de dire, moi je ne suis pas ça, je suis un enfant de Dieu. Bien-aimé, il est temps de rentrer à la maison. On peut t'avoir collé des noms, les noms de ta souffrance. Oui, peut-être on t'a appelé par les noms de ta situation. Mais si tu crois et si tu te retournes vers Dieu et lui restes fidèle malgré les difficultés, le Seigneur t'accordera la délivrance. Et il t'appellera par ton vrai nom. Et ce ne sera pas dans la clandestinité, ça sera au vu de tous. Méfiez-vous de ce que les gens vous collent comme nom, partant de ce que vous vivez. Vous avez besoin de vous attacher à Dieu qui connaît votre identité. Pour ceux qui sont déjà à lui, il nous appelle ses enfants. Il nous appelle ses fils et filles. Il va même au-delà jusqu'à nous appeler ses héritiers et co-héritiers avec Christ. Frère, le jour où nous allons découvrir notre vraie identité en Christ, nous n'allons pas nous laisser basculer par qui que ce soit. Par quoi que ce soit. Quelle que soit la souffrance, nous serons attachés au Seigneur parce que nous connaissons qui nous sommes. Oui, on vous y jettera lié dans cette fournaise ardente-là. On va vous y jeter lié. Mais vous y sortirez délié. On les a jetés liés. Mais lorsqu'ils vont sortir, c'était sans lien. Frères et sœurs, ces moments de difficulté que nous traversons ne vont pas nous laisser intacts. Nous sortirons de ces circonstances transformées parce que c'est aussi ça l'objectif de Dieu. Il veut nous transformer, il veut nous construire. Oui, ils ont assisté à ton humiliation. Et de la même manière, ils vont assister à ton élévation. Vous savez, il y a une image que nous avons dans le psaume 23. David dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il va jusqu'à dire, si je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Dans la suite, il dit, il dresse devant moi une table en face de ceux qui m'aiment, n'est-ce pas? En face de mes adversaires, le bonheur et la grâce, ça va m'accompagner, pas un seul jour, tout le reste. Alors, frères et sœurs, Dieu invite nos ennemis à la table de notre élévation. Dieu invite nos ennemis à la table de notre élévation. Mais ces gens-là vont venir avec toute joie, parce qu'ils savent que c'est le jour de notre enterrement. On va finalement l'enterrer, parce qu'on sait que son nom, c'est telle souffrance. On va l'enterrer. Et à leur grande surprise, quand ils vont arriver là-bas, ce sera pour notre élévation, notre couronnement. Bien-aimés, attachons-nous au Seigneur, parce qu'il est le Dieu qui utilise toutes les circonstances pour notre bien. Paul l'a compris, il a dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je suis venu bien aimé nous rappeler qu'il y aura un après cette fournaise. Oui, tu seras jeté, certainement. Tu es persécuté, oui, évidemment. Mais sois rassuré d'une chose. Tu n'es pas abandonné. Et comme tu n'es pas abandonné, il y aura certainement un après cette souffrance que vous en direz aujourd'hui. Vous devez vous rassurer que vous restez fidèle à Dieu parce que en sortant de cela, après cette souffrance, viendra les bons moments où vous serez mieux que ce que vous êtes aujourd'hui. Parce que le Seigneur, il connaît aussi les genres de muscles spirituels que vous avez déjà. Et il ne permettra pas que vous puissiez être tenté au-delà de vos forces. Je veux dire ceci. La difficulté que vous traversez là, mon frère, ma sœur, dites-vous dans votre cœur, elle est proportionnelle à ma foi. Je me rappelle quand j'étais au chômage juste après le mariage, c'était le révérend Kehia qui était notre pasteur à cette époque-là. La vie n'était pas facile. Et vous savez quand ça ne va pas, c'est clair aux yeux de tous. Ça ne se cache pas. Vous pouvez cacher ça 1 mois, 2 mois, 3 mois. Moi, quand c'est 1 année, 2 ans, 3 ans, c'est clair, ça parle. Et je n'oublierai pas, toutes les fois qu'il venait à la maison prier avec nous, il me disait ceci, Dieu exauce, hein? Dieu a vu que tu as déjà une grande foi plus que nous tous. C'est pourquoi il a permis que tu passes par cette situation. Je ne comprenais pas. Alors bien-aimé, le Seigneur connaît ta foi. La souffrance que tu endures maintenant, elle est proportionnelle à ta foi. Parce qu'il a dit qu'il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà. Et il prévoira une voie de sortie. C'est pourquoi nous avons dit, il y aura un après cette fournaise. Il y aura un après cette difficulté. Pendant que nous allons vers la fin, parlons de ce troisième élément qui parle de l'unité dans la défense de la vérité. Au fait, quand vous lisez l'histoire de ces 3 jeunes, vous voyez comment ils se sont unis face à la menace. On les a menacés de tous les maux. Mais essayez de vous imaginer. Si un seul de ces 3 pouvait dire, « Ah, ah, roi, moi, hein, je voudrais me prosterner. » Ne pensez-vous pas qu'il influencerait les autres? Parce que des fois, nous avons la force, quand nous sommes dans la communion avec les autres. Si nous sommes seuls, nous devenons faibles. Et les animaux dans la forêt savent ce principe-là. Quand les lions viennent attaquer, ils se regroupent ensemble. Comme ça, le lion, il va manquer. Je vais attaquer qui et ne pas attaquer qui. Mais quand ils se dispersent un à un, le lion va se cibler un, il va le poursuivre et ça sera la fin. Alors ces jeunes gens, ils se sont unis dans la défense de la vérité. Pour la défense de la vérité, bien-aimé, ne nous compromettons pas. Ne faisons pas de concessions. Ne négocions pas. Si c'est la vérité, restons dans la vérité. Même si tout le monde va aller à l'encontre de ce que nous croyons, restons là. Parce que si nous y restons avec Dieu, nous sommes plusieurs, même si nous sommes peu aux yeux des gens. Ils se sont unis. Nous sommes dans une terre étrangère, mais Dieu nous a donné de l'autorité dans une terre étrangère. Essayez de vous imaginer, bien-aimés, comment est-ce que nous marchons calmement sur cette terre remplie de puissances de ténèbres maléfiques qui nous sont nuisibles. Mais nous marchons tête haute parce que établis en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Alors le Seigneur, il est celui qui nous aide, quelle que soit la persécution. Il nous a établis, c'est pourquoi nous pouvons marcher tête haute. C'est pourquoi, étant persécutés, nous devons apprendre à nous unir pour constituer une force irrésistible. Si nous nous unissons en tant qu'enfants de Dieu, nous saurons faire face à la persécution. Mais si nous commençons à nous regarder dans les yeux, toi tu n'es pas d'ici, à nous trier les uns les autres, nous allons devenir faibles. Et le diable saura détruire nos vies. Nous avons besoin de nous unir, bien-aimés. Il est temps que nous puissions cesser de nous regarder dans les yeux, de nous regarder au nez, de nous regarder
à notre manière de parler, est-ce que nous pouvons parler le même langage, le langage du ciel? Jésus a dit, ce ne sont que ceux qui font la volonté de mon Père qui sont ma mère, mes frères, ses sœurs. Il est temps que nous puissions nous identifier à tant que des faiseurs de la volonté de Dieu, des enfants de Dieu. Lorsque nous allons nous unir, alors nous serons une force irrésistible. Quelle que soit la pression, quelles que soient les souffrances, nous allons expérimenter la grâce du Seigneur qui nous recueille et qui ne nous abandonnera jamais. Quand nous allons sortir vainqueurs de cette situation difficile, vous savez ce que ça va amener? Nous aurons élevé les standards d'adoration de notre Dieu dans la vie de ceux qui sont autour de nous. Parce que les gens vont prendre conscience que le Dieu que ces gens servent, ce n'est pas n'importe quoi. Le roi l'a reconnu, lui-même a dit que dans ces lieux ici, on n'adore plus quelqu'un d'autre à part le Dieu des frères et sœurs. Mon attitude face à cette souffrance, votre attitude face à cette souffrance, elle est très déterminante. Parce que sa finalité, si nous les gérons bien, si nous nous attachons au Seigneur, alors les gens vont avoir du respect pour notre Dieu. Et si nous glorifions le Seigneur ne manquera pas à nous récompenser. Paul a compris que ni la mort, ni la vie, ni les dominations ne pourront jamais les séparer. Parce qu'il a compris que Dieu a plusieurs manières de nous sauver. Parce que vous savez que si Dieu sauvait toujours ceux qui lui restaient fidèles, à la manière où les hommes veulent voir les saluts, comme il a fait pour ces jeunes ici, nous chrétiens, nous n'aurions plus besoin de la foi. Parce que nous aurions cru seulement que comme je crois, ça va être comme ça. Mais le Seigneur de sa souveraineté, il a plusieurs manières pour nous sauver. Ceux-ci les a sauvés de la fournaise ardente. Mais Étienne, il l'a sauvé des mains de ceux qui le maltraitaient. Et il est allé dans la mort physique avec joie parce qu'il a réalisé que c'est Dieu qui l'a sauvé et Dieu l'a fait voir sa gloire. Alors bien-aimé, peut-être qu'il va vous sauver en vous rendant la vie. Peut-être qu'il va vous sauver en vous reposant de votre travail sur la terre. Tout ça, c'est le salut qu'il nous donne. Tout ce qui compte, Paul l'a compris, ce n'est pas ce qui nous arrive. Tout ce qui compte, c'est à qui est-ce que nous nous attachons, que ce soit dans la vie, que ce soit dans la mort. Persécuté, mais non abandonné. Le Seigneur vous a déjà dévancé dans cette fournaise. Soyez confiants, le Seigneur, il est notre aide et que le Seigneur nous bénisse. Amen.